Voilà, Daf Mem Zayin, dernière ligne. Le paragraphe, c'est Samer et 65. Amar Rabbi Yona. D'accord. Tout le monde est bon? Donc on est toujours dans la tfila, mais il y a des détours, des méandres, puisque c'est une compilation. Il a dit... C'est bon? Amar Rabbi Yona. Il a dit... Rabbi Yona. Amar Rabbi Zira. Kol alan shivat yamim belo chalom. Ça va vous faire peur. Tout celui qui dort pendant 7 jours sans rêver, nikra ra, qui s'appelle un homme mauvais. D'accord ? Un homme a besoin de rêver, c'est une bracha de rêver. Voilà. 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 Chez Neymar, comme il y a un pasouk qui dit, d'accord, c'est un pasouk dans Michelet, mais ça, alors, le pasouk, on va le traduire, mais c'est l'habitude de la Gemara qui remodèle les psukim pour leur faire dire ce qu'elle a envie de dire. Mais sa vea yalin, celui qui dort rassasié, balipa kedra, il ne sera pas réveillé par le mal. Donc bon, ça c'est dans Michelet, c'est dans Kohelet. Il dit, quelqu'un qui s'endort tranquille, rassasié, ben il n'est pas perturbé pendant son sommeil. Mais la Gemara dit, altikre sa vea. C'est vrai qu'en hébreu, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point, etc. Donc en réalité, le premier mot qui dit sa vea, qui veut dire rassasié, exactement, on a l'habitude de lire Sheva, d'accord ? D'accord ? Donc ça, c'est un principe général qui peut choquer au départ, d'accord ? De torturer les mots, etc. Mais c'est vrai que quand vous voyez un mot écrit, ou quand vous lisez un mot, quand vous entendez un son, eh bien, ça peut avoir plusieurs sens, et tous ces sens, ils sont compris dans l'idée que vous voulez exprimer. Sinon, on fait attention à ce qu'on dit, d'accord ? Donc, si le mot savea, qui veut dire rassasié, c'est exactement les mêmes lettres du mot sheva, qui veut dire sept, d'accord ? Et donc, le shabbat, etc. Donc, tous ces sens-là concourent dans la même idée. Et donc, on peut relire le passage différemment. Altikre savea et la sheva, ne lit pas rassasié, mais sept. Et donc, on pourrait comprendre ça. Ve sheva yalin, celui qui dort sept jours. Yalin, c'est dormir, la lina. Balipaked, sans être dérangé. Ra, c'est un homme méchant. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, le rêve, c'est une bracha d'Hachem, qui est, alors, le rêve, bon, on va arriver, hein. Là, on est au deuxième chapitre de la Gemara Brachot. Il y a tout un chapitre qui est le neuvième chapitre de la Gemara Brachot, qui va traiter des rêves dans tous les sens, l'interprétation des rêves, le sens à donner. Pour la Gemara, c'est très important. Alors, juste on anticipe un peu. Mais, c'est vrai que dans les rêves, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves qui sont liés, pour beaucoup, à ce qu'on a vu dans la journée, ce qu'on a vu la veille. Donc, c'est des rêves qui n'ont aucun intérêt. Ce qu'on a mangé, etc. Tout ce qu'on a, etc. Puis, il y a des rêves. On fait des rêves qui nous tombent dans l'esprit sans aucune raison. On rêve d'un défunt, on rêve d'une idée farfelue, on rêve de quelque chose. Et sans aucune raison. Il n'y avait aucune raison de penser à cette personne. Des fois, on se lève et on pense à quelqu'un. Alors là-dessus aussi, il y a plusieurs voies, mais il faut savoir que quel que soit notre niveau, on peut être un homme qui se considère comme petit, on est tous des gens petits, en tout cas on ne se considère pas comme des prophètes, mais le rêve, c'est une mini-prophétie. C'est quoi la prophétie ? C'est une manière pour Hachem de s'adresser à l'homme. Alors Hachem ne peut pas s'adresser à tous les humains, il faut avoir le niveau pour entendre la voix d'Hachem. Donc à l'époque, quand il y avait des prophètes, maintenant il n'y a plus de prophétie, eh bien Hachem il s'adressait aux prophètes, il transmettait un message aux humains. D'accord ? Et la Gemara elle dit que, en l'absence de prophétie, le rêve, c'est aussi une manière pour Hachem de s'adresser à l'humain de façon individuelle. Donc c'est une petite prophétie. On verra les conditions, etc. Alors bien sûr, tous les rêves ne sont pas des prophéties. Et prophétie, ce n'est pas seulement une prophétie sur l'avenir. Ça peut être juste aussi une prise de conscience. C'est aussi une prophétie, c'est dans le sens... parole d'Hachem à l'homme, d'accord ? Et donc voilà pourquoi le fait de ne pas rêver, d'accord ? Alors dans le rêve, il y a tous ces éléments, tout ce que vous connaissez autour du rêve, des rêves d'espoir, des rêves d'envie, etc., on les verra. En tout cas, la Gemara dit qu'un homme, il doit rêver. Et ne pas rêver pendant 7 jours, c'est pas bon, ça sous-entend que ou bien on n'a pas d'espoir de quelque chose qui nous ferait rêver, c'est le principe du rêve, on rêve à quelque chose parce qu'on la désire, mais également qu'on n'a pas de relation avec la parole divine. Ok ? Amar le Rabbi Acha. Alors, il a dit Rabbi Acha, deuxième ligne, Bered Rabbi Chia, Bered Rabbi Abba, c'est le nom. Achi Amar Rabbi Chia, voilà ce qu'a dit mon père. Amar Rabbi Yochanan, au nom de son maître, Rabbi Yochanan. Kol amasbia atzmo mi divre Torah velan. Tout celui qui se rassasie de paroles de Torah et qui s'endort, ça veut dire que qui le soir, pour s'endormir, eh bien il étudie ou il lit des choses de Torah en français, en hébreu, en ce qu'il veut, mais il est dans une optique d'étudier la Torah, eh bien en mevasrim oto besorot raot, on ne lui annoncera pas de mauvaises nouvelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Shenema, comme c'est marqué, vesavea yalin valipakedra, celui, et donc là il reprend le sens littéral du verset de Michelet, qui disait dormir rassasié. Le passage dans Michelet, il disait celui qui dort rassasié, il n'est pas rattrapé par le mal. Donc il dit, nous on a compris tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est rassasié au niveau alimentaire. Mais Rabbi Yochanan a dit non, pas seulement. C'est quand on est rassasié de paroles de Torah, on ne nous annonce pas des mauvaises nouvelles. Alors en réalité, les commentateurs disent, ça veut dire, si effectivement le rêve, c'est l'occasion pour Hachem d'avoir une parole avec l'homme, c'est pas parce que j'ai étudié la Torah, alors on va plus me parler. C'est qu'en vérité, non. C'est que vous voyez ici encore un autre rôle du rêve, c'est un rêve annonciateur. D'accord? Bon, nous, on est dans des périodes où, surtout après Freud, et on a des psychanalystes ça les fait rigoler parce que, pas lui, mais la plupart, ça les fait rigoler parce que le rêve, c'est un exutoire, etc. Il n'y a pas de réalité dans le rêve, d'accord? C'est des fantasmes, la conscience, du conscient, tout ce que vous voulez. Mais dans la Gemara, non. Il y a une valeur à accorder au rêve, on y fait attention. Il y a certains rêves mauvais pour lesquels on doit jeûner, dit la Gemara. Pourquoi? Parce qu'un rêve, il peut également être annonciateur de quelque chose. Si effectivement, le rêve, c'est une relation entre des mondes supérieurs, pas toujours. Il y a des rêves qui sont des rêves inférieurs, on sait tous. Il y a des rêves qui sont des rêves ridicules. Mais si un rêve, il est relié à un monde supérieur, eh bien, il peut être annonciateur de quelque chose. Des fois, Hachem, il se sert d'un rêve pour annoncer aux personnes quelque chose. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit que parfois, on n'aime pas être le véhicule de mauvaises nouvelles. D'accord? On t'apprend, etc. Alors, maintenant, on accorde tellement peu d'importance aux rêves à notre époque que ça ne veut rien dire. En général, en plus, on oublie la plupart du temps, au bout de 10 minutes, on oublie nos rêves. D'accord? Et même si on avait un rêve qui nous perturbe, comme des fois ça arrive, eh ben on dit non, c'est des bêtises, parce que de toute manière on ne sait pas l'interpréter. Parce qu'il y a un problème d'interprétation des rêves. La Gemara va dire que tout rêve, il nécessite une interprétation, et une interprétation par une oreille amicale, et une oreille qui comprend les choses, qui comprend le sens de rêve, et deuxièmement qui doit avoir une interprétation amicale. On verra ça quand on y arrivera. En tout cas, la Gemara dit, dans ce qu'il dit Rabbi Yochanan, que si effectivement le rêve, il peut servir à Hachem à annoncer aux humains et à la société des mauvaises choses. Donc, ne seront véhicules de ces mauvaises nouvelles que des gens qui n'ont pas de mérite. Je m'explique. Dans la Torah, on n'aime pas être annonciateur de mauvaises nouvelles, dans la tradition juive. Okay? C'est-à-dire que quand tu sais quelque chose de mauvais, tel est mort, tel ci, tel a fait faillite, on se tait. Sauf si c'est nécessaire. D'accord? Si c'est nécessaire de dire telle personne est morte, il faut aller au funérarium, il n'y a pas de problème. Mais juste dire, celui-là il est mort, celui-là il fait faillite, on se tait. On n'a pas besoin d'annoncer aux gens les mauvaises nouvelles. D'accord? C'est une règle dans la tradition juive qui parfois elle surprend. Alors, il faut trouver juste la nuance, c'est-à-dire, sauf si c'est nécessaire, sauf si c'est important. Si c'est quelqu'un que tout le monde connaît, mais annoncer qu'un type qui était à Grenoble il y a 20 ans, ben, il est mort, voilà, il était à Ashdod, ou il était à Toulouse, ou il était je sais pas où, et il est mort, bon, pourquoi faire de la peine aux gens? S'ils ont besoin de le savoir, ils le sont. S'ils n'ont pas besoin de le savoir, tu n'as pas besoin de te faire toi l'annonciateur des mauvaises nouvelles. Donc être annonciateur d'une mauvaise nouvelle, c'est jamais bien, c'est jamais bon. D'accord? Donc elle dit la Gemara que pourquoi est-ce qu'Hachem il a choisi Monsieur X pour lui faire faire un rêve annonciateur d'une mauvaise chose? C'est parce qu'effectivement, il n'a pas le niveau suffisant pour être au-dessus de ça. D'accord? Ou bien il est dans ce mode d'information. Donc voilà pourquoi quelqu'un, dit Rabbi Yochanan, qui s'endort dans la Torah, eh bien Hachem, il lui fera passer que des messages positifs. D'accord? Donc c'est important de s'endormir ou avec le Torah Box, ou avec Kuntras, ou avec un livre de Torah, ou avec ce que vous voulez. Il y a suffisamment de choses en français ou en hébreu pour s'endormir avec ça plutôt que s'endormir avec les actualités ou avec le portable sur CNews, je pense que vous voulez. D'accord ? Ok. Pisca, vous êtes bon ? Après, c'est des conseils, hein, après, pour changer son mode de vie, c'est long, puis ça dépend. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. On doit se fixer des objectifs. Tout doucement, on arrive. Quand on se fixe des objectifs, pas pour maintenant, dans une fois par semaine, deux fois par semaine, après, on arrive à ces objectifs. Et après, on ne peut pas s'endormir autrement qu'avec quelque chose de Torah. C'est nécessaire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Ben Vayomer, l'Emet V'yatsiv, ça, on avait déjà vu ça, c'est une reprise. Vous rappelez qu'à la fin du Kriyat Shema, on dit Ani Hashem Elokechem. Oui, et on dit le mot Emet. Bien que le mot Emet n'ait rien à voir avec le Shema, le mot Emet, je vous rappelle que le Shema, c'est trois paragraphes qui sont des morceaux de la Torah, d'accord, qui sont des morceaux autonomes que les Chachamim, ils ont accolés les uns avec les autres pour composer ce que nous, on appelait le Shema. D'accord ? Mais en vérité, c'est tous des petits morceaux accolés. Et donc, la fin du troisième paragraphe, c'est Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. D'accord ? Qui est un objectif, de se rendre compte que c'est Hachem qui décide, eh bien, on avait dit que le mot qui doit compléter cette phrase, c'est dire oui, Emet, c'est vrai. D'accord ? Puisque le schéma, c'est une phrase d'Hachem. Hachem, il dit, vous, voilà le troisième paragraphe. Quand vous aurez un habillé à quatre coins, vous mettrez des tzitzit, vous vous souviendrez de la sortie d'Égypte, etc. Tout ça. Et là, le man dit, Kérou, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher Otseti Etchem qui vous a fait sortir. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. C'est une affirmation. D'accord? On le dit. Donc on le dit parce qu'on affirme cette chose-là. Mais le fait de dire Emet, c'est vrai, c'est prendre à notre compte cette affirmation. Donc ce simple mot Emet, il change totalement le sens du schéma. Quand tu dis le schéma, tu dis ce que Dieu il veut que tu entendes. D'accord? Dieu il m'a dit de dire, je le dis. Mais est-ce que j'en suis persuadé? Ben, je sais pas. Alors les Chachamim, ils ont dit, tu sais quoi? Dit Emet, c'est vrai. D'accord ? C'est vrai. Le fait de dire c'est vrai, c'est acquiescer, donc ça donne tout son sens au schéma. Et donc, exactement. Et la Gemara, elle dit Ben Vayomer l'Emet Viativ, et donc, Rabbi Yehuda, il dit entre le mot, entre le paragraphe Vayomer et Emet Viativ, c'est vrai et c'est fort. Lo Yafsik, il ne faut jamais s'arrêter. Parce que ce qui suit le schéma, c'est médiatif, enochon, etc., c'est des mots d'affirmation. C'est vrai et j'en suis persuadé, etc. Et donc, Rabbi Yehuda dit, pourquoi on a mis ces mots d'affirmation? Pour les faire suivre avec le schéma, donc on ne doit pas s'arrêter. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan, al-Hag Rabbi Yehuda. La halakha, elle est justement comme Rabbi Yehuda, d'Amar qui a dit, ben Elokechem le médiatif, entre le moigne Hashem Elokechem et médiatif, lo yafsik, on ne doit pas s'arrêter. Et c'est très important. D'accord ? Alors, oui, j'aimerais me faire meilleur.
Ouais. Ben des fois, quand on n'est pas beaucoup pour le Yann, justement, quand on arrive là, après le troisième paragraphe, justement, on attend parfois qu'il y ait un certain nombre de personnes qui finissent.
Pour continuer.
Pour continuer. Est-ce que ça, du coup, ça peut être considéré comme une interruption ou pas ?
Très bien. Et qui est capable de répondre ? On a parlé de ce sujet-là plusieurs fois. Même quand il y a du monde, d'accord, on fait un arrêt. Tout le monde attend, on a fini le schéma, jusqu'à ce que le chaliar tzibour, il dit « Ani Hashem Elokechem Emet » et on continue. Donc c'est une coupure tout ce temps-là. On avait dit, c'est ça. Alors je vous rappelle, dans le Patach Eliyahu, oui, vous verrez qu'à la fin du schéma, c'est marqué Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem. Et après, on reprend Emet Viyatsiv. C'est pour cette raison que ce mot Emet de la suite, on le colle au schéma. C'est-à-dire qu'on le met avant. D'accord ? Justement pour pouvoir attendre. C'est-à-dire, quelle que soit votre situation, que vous soyez en communauté, que vous soyez seul ce soir à la maison, avant de dormir, vous faites le schéma, eh bien, vous n'y Ani Hashem Elokechem, Emet. Vous direz toujours Emet. Et donc, même si tu es en communauté et que tu attends que le Shaliar Tzibour il reprenne Hashem Elokechem, Emet, ton Emet à toi, tu l'as déjà dit. Tu l'as dit en disant Ani Hashem Elokechem, Emet. Donc, tu as validé ce mot Emet. Et après, une fois que le Shaliar Tzibour est Ani Hashem Elokechem, tu reprendras à Ve'emuna ou Ve'yatsiv, parce que tu n'as pas besoin de dire le mot Emet. Vous avez compris ? Donc, toujours, un schéma, il se termine toujours par le mot Emet, c'est vrai.
C'est le tampon.
Exactement. Amarabia, Baou. Exactement. Il a dit Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Oui. Et d'ailleurs, une chose que les gens ne savent pas, c'est que quand on est seul, mais c'est une autre raison. Quand on est seul, qu'on fait le schéma du soir, ou bien qu'on fait Arvit seul, d'accord? Il n'y a pas le Shayar Tzibur qui va répéter Hachem Elokechem Emet. Vous suivez à peu près où on en est? Vous savez, quand le Shayar Tzibur fait la prière, tout le monde termine le schéma, Shayar Tzibur, Hachem Elokechem Emet, et tout le monde est d'accord. Ces trois mots qu'il reprend, c'est la fin du schéma, avec la validation du mot Emet. Pourquoi il y a besoin de ces trois mots? On l'avait déjà dit, mais il faut se répéter. Chazak, voilà, à force, ça avance. C'est que dans le schéma, vous avez 245 mots. Or, on sait que ces mots, c'est comme les mitzvot. Les mitzvot positives sont au nombre de 245. Chaque mitzvah, elle donne une force à un des membres, une force spirituelle à un des membres du corps. Et en fait, il y a 248 membres. D'accord? Donc il va manquer trois mots. C'est pour cette raison qu'on répète toujours Hachem Elokechem Emet, indépendamment de coller, pas coller. Donc maintenant, quand on est seul, ok, on doit dire aussi Hachem Elokechem Emet, comme si on était le Shaliach Tzibur. Donc vous faites votre schéma avant de dormir, Ani Hachem Elokechem Emet, d'accord, Emet pour le mot d'après, et vous dites Hachem Elokechem Emet. Toujours, toujours, comme ça vous faites vos 248 membres. Ok? C'est ça. C'est 248, c'est le nombre de mitzvot positifs, c'est pour cette raison.
245.
Non, 245, c'est le nombre de mots dans le schéma. Et comme il nous manque 3 pour arriver au nombre de mitzvot positifs, on rajoute ces 3 pour faire les 248 mitzvot positifs. D'accord? Et les mitzvot négatives sont 365, comme le nombre de jours de l'année. Alors, on est bon? Ok. Très bien. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda, pourquoi il insiste tellement, à part le fait que ce soit un mot de validation, dire-t-il parce qu'il y a un pasouk, et ce pasouk-là, il est dans le prophète Jérémie, d'accord, je le sais parce que vous avez un petit bête là, avant le verset, vous regardez en bas, il vous donne les références, tout en bas de la ligne, marqué Yirmiya, Vachem Elohim Emet, l'éternel, Hachem Elohim, c'est les deux noms d'Hachem, la Midat Arahamim et la Midat Adin. Emet, il est vrai, il est droit, il est juste. Et donc on voit que dans un verset d'Irmiyahou, il y a déjà cette association entre Hachem Elohim et Emet, d'accord? Voilà pourquoi c'est important à la fois de suivre ce verset et à la fois de valider. Et une dernière chose qui est aussi importante, d'accord? C'est que c'est pas seulement « Je suis l'Éternel, votre Dieu »« Ani Hachem Elokechem Emet » c'est vrai. D'accord? C'est plus que ça. C'est plus que Dieu qui dit « C'est moi ». C'est parce que on a déjà dit plusieurs fois que les différents noms d'Hachem, ils correspondent à ces différentes manifestations dans le monde. Les deux grandes manifestations d'Hachem dans le monde, c'est par l'attribut de bonté ou par l'attribut de sévérité. D'accord? Donc ces temps-ci, on est plutôt dans Midat Adin, parce qu'on reçoit plein sur la courge, hein. Enfin même depuis, ça ne s'arrête pas, etc. Donc on sent qu'on est dans une période où il y a la Midat Adin qui est sur le monde. Ok? Et sur le monde, en particulier sur le peuple juif, d'accord? Et donc, c'est pour cette raison que ça nécessite une remise en question, etc. Et la plus grande remise en question, c'est le shalom, c'est l'entente entre les gens, d'accord? C'est ce qui se dit en Eretz Israël, les gens ils l'ont compris, que tout ça, on ne peut pas savoir pourquoi les choses arrivent. Mais en tout cas, la réponse à ça doit être un travail de réunification du peuple et d'entente entre nous, etc. Chacun dans son petit cercle ou chacun dans son grand cercle. Eh bien, ce travail de réunification, il est aussi important dans nos oreilles entre les différentes manifestations du nom de Dieu. Ça veut dire que on doit savoir que c'est le même Dieu qui est bon et c'est le même Dieu qui est rigueur, d'accord? Et que il pourrait être bon, voilà maintenant il est rigoureux, mais il pourrait être bon, il ne tient qu'à nous qui se présente comme ça. Qu'en réalité, les manifestations d'Hachem, elles dépendent de nous, d'accord? Hachem, il veut nous montrer qu'il existe, d'accord? Tout le but d'un homme, c'est le début de Messilat Yesharim, ce qu'on lui sait, sentier de rectitude, l'objectif de la vie d'un homme dans ce monde, c'est de savoir qu'il y a un Dieu, qu'on ne voit pas, qu'il existe, qui dirige le monde et qui dirige notre vie et qui dirige l'histoire. D'accord? Et toute une vie d'un homme, c'est pour ça. Alors des fois on s'en rend compte, des fois on s'en rend moins compte, des fois on fait des zigzags, et des fois on n'en est pas persuadé, ce qui est normal, d'accord. Tous les questionnements qu'un homme il peut avoir dans sa vie, oui, non, pourquoi, comment, c'est normal. Sinon ça serait, ça vaudrait rien. Mais si cet objectif c'est celui-là, d'accord, et c'est le seul objectif de la vie d'un homme, eh bien dire Hachem Elokechem Emet, ça veut aussi dire Hachem qui est la Midat Arachamim, l'attribut de bonté, et qui est aussi l'attribut de vérité, de justice, c'est vrai. C'est vrai, je l'affirme. Je l'affirme au quotidien, matin et soir, que Dieu qui m'a donné des enfants, et c'est Dieu qui fait aussi ces difficultés qu'on vit, etc. Celui qui donne, c'est celui qui reprend. D'accord ? Et donc ça, c'est quand un homme, il se persuade de ça, eh bien, il se persuade. Il a conscience de ça. C'est pas seulement de se persuader, c'est avoir conscience de ça, eh bien, il est dans le vrai, c'est pour ça qu'on dit Hachem Elokechem Emet. Donc, ce sont trois mots qui sont très importants. Et c'est pour ça qu'on dit, le premier commandement, ce que vous avez là-haut, Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Hachem, c'est Midat HaRachamim, je suis Hachem, mais je suis ici ton Elohim. D'accord ? C'est le même. Et donc, tu dois comprendre qu'il y a une unité, c'est la même chose, c'est le même Dieu. Ok ?
Et Emet aussi, c'est un peu la réunion des deux. Parce que c'est. Emet, c'est Yaakov.
Oui.
Yaakov, c'est Tiferet.
Chazak. Il y a un pote qui est un kabbaliste. Chazak, ouais, c'est juste, exactement. Ouais. Emet, de manière. Emet, c'est une idée de stabilité. Puisque, je vous rappelle, c'est des milieux communs, ça. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Le Tav, c'est la dernière lettre. Et le même, c'est la lettre du milieu. Donc le mot Emet, c'est ce qui représente la stabilité dans l'alphabet. C'est la première lettre, la dernière lettre et la lettre du milieu qui forment le mot Emet, la stabilité. Et comme dit Michel, la stabilité, c'est l'association de deux contraires. C'est ça qui donne la stabilité pour un homme. Ok ? Allez, on est au deuxième paragraphe. Rabbi Lazar. Alors, là, on attaque quelque chose de très important, qui est le post-tefila. C'est quelque chose qui est peu connu. Mais il faut savoir une chose, que le post-tefila est presque plus important que la tefila. Quand je dis tefila, c'est Amida. D'accord ? Alors, oui, vous savez tous que le point central de la prière juive, c'est la Amida. Tout le reste, c'est des fioritures. C'est-à-dire, je m'explique, les talits, c'est une mitzvah. Les tefilines, c'est une mitzvah. Ça n'a rien à voir avec la prière. Le schéma, c'est encore une mitzvah. Ça n'a rien à voir avec la prière. D'accord ? Donc, une fois que vous avez enlevé le talit, les tefilines et le schéma, il vous reste l'arbre central, c'est la Amida. Ok ? Ah, pourtant, il y a plein d'autres choses autour. C'est quoi ces autres choses ? Ashrei, Baruch Shamar, tout ça, c'est des préparations à la tefila. Tu ne peux pas arriver directement dans l'Amida avant d'avoir pris conscience de la grandeur de Dieu, etc. C'est le but de tous les psaumes qu'on lit, Ashrei, etc., la Shira, tout ce qu'on lit. Et après l'Amida, alors il y a le Tachanoun, bon, on verra pourquoi. Une fois qu'on s'est rapproché d'Hachem, alors on peut faire une prise de conscience. Et après, il y a la fin de la tefila. Donc en vérité, la tefila, c'est ça et ça. D'accord ? Il y a une montée en crescendo jusqu'à l'Amida. L'Amida, c'est le point central. Après, tout doucement, on redescend. Et il y a des paliers. D'accord ? C'est bien analysé, mais ça s'étudie, la tefila. C'est-à-dire que vous avez des paliers. Des paliers, on passe pas directement à l'Amida, sauf à Mincha. La seule fois où on passe directement, on rentre directement tout de go dans l'Amida, c'est Mincha. D'accord ? Mais sinon, Shacharit, ça marche comme ça. Au début de la tefila, au début du matin, vous avez les brachot. Après, vous avez les korbanot, la akeda, etc. Baruch Shamar Ashrei, etc. Ça va crescendo, la shira, le schéma et l'amida. Après, ça redescend tout doucement. Bon. Maintenant, l'amida, chacun sait que dans l'amida, il y a 18 brachot. Oui, sauf qu'on a rajouté après, il y a une 19e, c'est une autre histoire. Donc l'amida, elle commence par Hachem Sefatai, c'est une phrase introductive. Vous avez l'amida, c'est quoi la structure de l'amida en chiffres ?
3.
Ouais.
3, 4, 3. Je répète, parce que c'est des choses, ça doit faire tac. L'Amida, c'est 3, 12, 3. Vous avez 18 bénédictions, d'accord ? Vous avez la structure, il y a une structure, comme une structure mathématique. Vous avez 3 du début, 3 de la fin, 12 au milieu. C'est quoi cette structure ? Les 3 du début, c'est...
La reconnaissance.
Non, la reconnaissance, c'est les trois de la fin.
Oui.
Non, les trois du début, c'est une affirmation que c'est notre Dieu, que c'est à lui qu'il faut parler, que c'est à lui qu'il faut demander. on dit Elohenu, Elo Avotenu, le Dieu de nos pères, Gomel Chassadim Tovim, qui fait des bienfaits, etc. Donc j'ai affirmé ces trois-là, et la dernière, c'est Baruch HaShem, Akel HaKadosh, qui est un Dieu qui est saint, qui est éloigné de nous, saint, parce que la sainteté, ça désigne l'éloignement. Ça, c'est les trois premières. Les trois dernières, c'est des remerciements. C'est d'ailleurs, on dit Modim, nous te remercions, à toi, Shim Raoulchan, Elot, Sim Shalom, Amverer, Tamo Israël, Bachalom. Et les 12 du milieu, en réalité, au début, il y avait 12, après les Chachamim, on va rajouter une 13e, on va dire les 12 du milieu, ce sont des demandes. D'accord? Vous avez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire la guérison, la santé, la bracha, le Jérusalem, la reconstruction du temple, tout ce qu'un homme, il peut, c'est un canevas. C'est les Chachamim qui ont composé ça pour nous donner un canevas de prière. En réalité, la prière, c'est de Oraita ou de Rabbanan. C'est de Minatora ou Midrabanan, la prière grecque. Question dure. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah rabbinique, la prière? Hein?
J'ai envie de dire que c'est entre les deux, parce que à l'origine, c'est quand on avait le temple, et le temple, on avait l'obligation de faire les sacrifices, donc ça c'est thoraïque, et après, la prière, c'est ce qui vient remplacer, substituer le manque de...
D'accord, comme ça, mais comme a dit Manu, c'est encore mieux, c'est-à-dire que l'obligation de tefila, c'est une obligation de la Torah, d'accord, on a c'est une mitzvah, on va dire... Le terme d'obligation, il est un peu péjoratif. C'est-à-dire, allez, tu fais. C'est pas comme ça. C'est une recommandation. Les mitzvot, c'est des recommandations. D'accord? Des recommandations de vie. C'est ça, les mitzvot. D'accord? C'est une manière de s'approcher d'Hachem. Donc, on a une mitzvah, d'accord? Un commandement positif de prier une fois par jour. Dans la forme que tu veux. Comme elle faisait ta grand-mère, elle mettait la main sur la mezouza. Dieu protège mon mari, mes enfants et tout le peuple juif. C'est fini. C'est bon.
Comment c'est marqué?
Quoi? Vous le servirez avec tout votre cœur. L'Agmara dit, c'est quoi un servir? Comment on peut servir avec le cœur? L'Agmara dit, c'est la tefila. D'accord? Donc, il y a une obligation de tefila. Maintenant, les Chachamim ont dit, c'est tellement compliqué de prier quand on n'est pas une grand-mère, qu'on va vous donner une structure, c'est plus facile, un canevas, un mode d'emploi. Donc, c'est ça le principe de la Mila. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Et donc, 3, 12, 3. Jusque là, on est bon? L'Amida se termine comment? Amevarer et Amo Israël Bachalom. Jusque là on est bon? Sauf qu'après, vous avez encore un petit paragraphe. Elokai Netzor Leshoni, tatati, tatata. Qui est la post-Amida. Vous voyez le dernier paragraphe, avant de reculer. Normalement, l'Amida, elle s'arrête. Amevarer et Amo Israël Bachalom, c'est la 19e bracha. C'est fini. Et normalement, on devrait reculer. Et on devrait faire aussi Shalom. Et il y a un petit paragraphe. D'accord, on le traduira si vous voulez, un petit paragraphe qui est le post-tefila. Alors, pourquoi c'est important de savoir qu'on n'est plus dans la Amida? C'est que dans la Amida, on n'a pas le droit de parler. Ça, vous savez tous. Même répondre au Kaddish, répondre à la Kedusha, on n'a pas le droit. Par contre, quand on est dans ce petit paragraphe-là, qui pour nous, on est encore dans la Amida, parce qu'on n'a pas encore reculé, mais en vérité, on n'y est plus, on a terminé, c'est de la post-Amida. Donc, on peut répondre. On peut répondre au Kaddish, on peut répondre à la Kedusha. Ok? Maintenant, c'est quoi ce petit paragraphe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. C'est un paragraphe fourre-tout dans lequel les sages ont mis des choses qui leur venaient à l'esprit. Des choses importantes qu'ils n'avaient pas mis dans l'Amida ou qu'ils ne voulaient pas mettre dans l'Amida. Des choses personnelles. D'accord? Alors, et pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, c'est marqué dans mon ciseau, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est que, des fois dans l'Amida, chacun, il met ses choses personnelles, d'accord? Un, il a sa grand-mère malade, l'autre, il veut la parnassa, l'autre, il veut de la santé, etc. Et dans la bracha, il dit, mon Dieu, donne la santé à ma grand-mère, matin et soir. Il dit qu'en réalité, il dit le chida, c'est très bien. Mais, ça redevient un automatisme. Toute l'idée de la tfila, c'est d'enlever l'automatisme de la prière, d'accord? Ce qui est un danger. Alors, c'est pas mal non plus par rapport à ceux qui prient jamais. C'est déjà bien de faire l'Amida. Mais en réalité, on doit renouveler sa Amida. C'est-à-dire, renouveler les mots, renouveler les idées. Alors, maintenant, il y a un problème qui me turlupine, d'accord? Et je veux demander ça tous les jours. Maintenant, on veut tous demander que Hachem, il protège Eretz Israël, qu'il protège les soldats et qu'il tabasse nos ennemis. Et c'est ça le leitmotiv que chaque juif, il a et qu'on doit avoir. C'est très important. En plus de nos problèmes personnels. Mais, on doit le renouveler, tu ne peux pas dire tous les jours la même chose, sinon ça devient un automatisme. Donc la Gemara a dit qu'en réalité les Chachamim, ils avaient tous des petits trucs qu'ils disaient en fonction de leur personne, en plus de la Amida normale. Alors, il le disait en post-Amida. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois des choses, on ne sait pas comment trouver leur place. Alors, bien sûr, si on veut demander la santé, ben, y a une bracha pour la santé. D'accord ? Mais des fois, tu veux demander des trucs, tu veux demander pour tes enfants. Alors, quand on ne sait pas où mettre, où est-ce qu'on met ?
Ben là, dans la truc
forte, ça veut dire que c'est quoi? Là, le voilà. Alors, on peut les mettre après, mais si quelqu'un veut les mettre dans la mitzvah, comme il dit Michel, dans Shomea Tfila, Dieu, il écoute les prières. Dans ce paragraphe, on met tout. D'accord? Ce que vous savez, alors, il y a des choses qui ont leur place. Mais surtout quand on ne connaît pas la traduction, on ne sait pas quoi demander, enfin, comment demander. D'accord? Donc voilà, comme il dit Michel, on met dans Shomea Tfila. Et sinon, si on a terminé la tuila, on a fait puis après on dit mince, j'ai oublié un truc, en post-amida, c'est là où on peut mettre ce qu'on veut. D'accord ? Donc ça nous montre en réalité un peu ce qu'il dit Rabbi Nachman, ce qui est, souvent on parle de Breslav, Rabbi Nachman de Breslav, qui dit que c'est très important pour un homme de s'adresser à Dieu, de lui parler, de lui demander. D'accord ? Et que c'est vrai que la tuila est une aide, mais à la fois un carcan. Pourquoi elle est un carcan ? Parce qu'elle te bloque avec des mots. Alors qu'en réalité, on doit pouvoir s'adresser à Dieu avec nos propres mots. Rabbi Nachman de Breslav, il dit, tu dois t'adresser en français, en yiddish, en anglais, en ce que tu veux, et dire à Dieu, je veux ça, je veux, je te demande, s'il te plaît. D'accord ? Et des seuls principes, là, il vaut des doutes. Oui, Manu.
Il est rigolo, parce que de ce que j'ai lu sur un petit résumé d'Ikudé Arman, Moharan, c'était qu'il discute. C'est-à-dire, c'est pas, je veux ça.
Oui.
J'explique mon problème, blablabla.
Oui, c'est vraiment... oui, exactement.
Comme avec un pote.
Mais en réalité, on le verra dans la suite de la Gemara, Rabbi Nachman il a mis ça en avant, mais dans la Gemara, on voit qu'il y avait des Tanaïm, des Amorim qui le faisaient. Le Chavetz Chaim il faisait comme ça, c'est quelque chose d'ancien. D'accord ? Et ça fait partie de la méditation active en réalité. Il y a la méditation passive et la méditation active. C'est s'adresser avec Hachem. D'accord ? Dans son méditation, de s'écarter du monde de la réalité. Alors on avance, regardez.
Et comment fait-il lorsqu'on répète le Midda ?
Oui.
Justement, on ne répète pas ce poste.
Parce que ce poste-truc, c'est un truc personnel.
D'accord.
Donc, je ne peux pas faire un truc pour vous.
D'accord.
C'est vous qui devez mettre ce que vous voulez.
D'accord.
Alors,
c'est pour ça qu'on ne répète pas. Là.
Voilà, chacun met ce qu'il veut.
D'accord.
Maintenant, c'est vrai que de nouveau, on retombe dans ce carcan institutionnel. C'est que le poste Amida a été institutionnalisé. Il y a un texte, mais en réalité, il faut casser ce texte. Il faut lui rajouter des mots, il faut mettre des trucs, il faut mettre ce qu'on a envie là-dedans.
D'accord.
Ok ? Alors, maintenant la Gemara dit voilà. Et donc on va voir plusieurs Chachamim, chacun qui va dire voilà ce que moi je mets quand j'ai fini ma Amida. Ok ? Rabbi Lazar. Le premier c'est Rabbi Lazar. Batar de Mesayem Tzloté. Après qu'il ait fini Tzloté, sa prière. Tzla, comme en arabe. Amarachi, il disait ceci. Yehi Ratzon, qu'elle soit. J'espère qu'elle soit ta volonté, Milifanecha Hashem Elokeinu. C'est-à-dire, je prie pour que ta volonté corresponde à la mienne. D'accord ? Donc, quelle soit ta volonté devant toi. Chez Tashken, Bepurenu, que tu fasses résider Bepurenu. Alors, le mot, il est rarissime. D'accord ? Pourenu, ouais. Ça te fait penser à Pourim. Pour, c'est pas mal d'ailleurs. D'accord ? Donc, Stan, il dit, c'est quoi Pourenu ? Pour les hébraïsants. Pour et nous, c'est notre pour.
C'est notre destin.
Voilà, quoi. Notre sort, notre destin. Destin. D'accord ? Et c'est ça que dit Rashi. Si vous voulez regarder en bas, vous avez Rashi à la quatrième ligne. Tout en bas.
Ouais.
Vous avez Rashi. Vous avez commencé à marquer Rashi ? Il y a deux colonnes. La colonne de droite et la quatrième ligne. Vous avez le mot pour et nous. Vous l'avez trouvé ?
Oui.
Oui.
Et donc Rashi t'explique. Mais Goral et nous, dans notre sort.
Ouais.
Donc Rachid a traduit comme Stan que pour, c'est le Goral, le sort, le destin. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Chez Tashken, mais pour et nous, que tu fasses résider dans notre destin, dans notre vie, Ahava, l'amour, Achva, la fraternité, Shalom, la paix, Vereout et l'amitié. Il dit, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin, c'est ça qu'il disait tous les jours à la fin de sa prière, je te demande que dans ma vie, notre sort, notre vie quotidienne, dans ma vie, eh bien, je veux amour, fraternité, paix et amitié. C'est ça que je demande. Vetarbe que voulez-nous, et que tu multiplies notre part, betalmidem avec des élèves, que tu m'aides à avoir des élèves. Parce qu'avoir des élèves, ça veut dire avoir des gens qui t'écoutent et et ça te donne une valeur. Mais Tatsliar Sofenu, et que tu fasses réussir notre fin, que la fin de notre vie soit une réussite, Acharit Vetigva, comment elle va être une réussite qui a une fin, Vetigva et un espoir. D'accord ? L'aboutissement d'une vie, c'est si on a de l'espoir. D'accord ? Si une vie, elle se termine sans qu'il y ait une espérance, un projet, eh bien, c'est une vie ratée. Donc, vous voyez ce qu'il dit ? Donc, il était déjà âgé, Rabbi Lazar. Il dit, Betatzliar se fait nous. Fais-nous réussir notre fin. D'accord ? Un homme, il doit prier. C'est-à-dire, c'est bien, on a tous rempli nos dires, chacun a sa mesure, hein, mais c'est le plus jeune, mais alors, on a construit les enfants, la parmassa, le patati, le patata, puis les fins de vie, c'est compliqué. On n'a plus de projet, on n'a pas de choses. Alors il dit, il priait, Betatzliar se fait nous que tu fasses réussir notre fin, qu'on ait une fin de vie réussie, acharit, cette fin-là, Betigva avec de l'espoir, un projet. D'accord ? Qu'une fin de vie réussie, c'est une fin de vie avec un projet, quel qu'il soit. Que le projet il soit, je vais écrire un livre, je vais m'occuper de mes petits-enfants, je vais faire mes mémoires, ou je vais faire du bénévolat en Israël, ce que tu veux, mais qu'il y ait un espoir.
Faire
l'Aliya, exactement, n'importe. Ou rester à Grenoble et faire s'occuper d'une association caritative, aussi c'est un espoir, qu'il y ait un projet de vie, d'accord ? Que souvent les gens disent, j'ai plus rien à faire, je comprends rien, il n'y a rien, les jours se continuent. Oui.
Mon grand-père.
Mon
grand-père, le jour avant qu'il meure, il était à l'hôpital, il nous a dit, vous n'avez plus besoin de moi, je peux partir.
Ah, ouais.
Quoi, j'ai pas compris.
Mon grand-père, la veille de son décès, il nous a dit, bon, vous n'avez plus besoin de moi, je peux partir. Tranquille, tu vois, pépère. Il est mort le lendemain.
Zen.
Mais Tassim Chelkenu Began Eden, et mets notre part, notre futur, dans le Gan Eden. On te demande. Betakenenu, et regardez la suite de sa prière. Betakenenu, et arrange-nous, prépare-nous, chavertov, un bon ami. Ce qu'on a besoin aussi, c'est d'un bon ami. D'accord ? Un bon ami à qui sont pu partager, dire, parler, quelqu'un de confiance, qui te comprend, qui te juge pas. Vous voyez ? Et pourtant, c'est des grands rabbins. D'accord ? Vous voyez qu'ils priaient sur des choses.
Humaine,
du quotidien, bien d'accord, bien et c'est pas parce qu'ils étaient grands rabbins, ils priaient pour ça. Veillez Tsertov, et aide-nous à avoir un bon penchant, une bonne volonté Bolamcha dans ton monde. Venashkim, et que quand on se lève le matin, Venimtsa, Yichul, Levavenu, Leiraet Shemecha, qu'on trouve, Nimtsa, on trouve, c'est trouvé, Yichul, l'espoir, Levavenu de notre cœur, L'Iraet Shemecha, de craindre ton nom. Alors ça, c'est un... En fait, chaque partie de sa prière, elle est analysée. C'est quoi ? Que quand on se lève, Venimtsa, qu'on trouve que l'espoir... Je reprends. Venashkim, que quand on se lève, Nimtsa Yichul Levavenu, qu'on trouve que l'espoir de notre cœur, L'Iraet Shemecha. C'est aussi quelque chose d'important, et ça rejoint aussi le fait de s'endormir avec de la Torah. Les Chachamim, ils disent, enfin les Baal et Moussar, ils disent qu'une chose très importante... C'est quelle est la première pensée qu'a un homme quand il se lève le matin ? D'accord ? Vers quoi il dirige ses pensées ? Alors on t'aide en disant le mot déani. Mais des fois on est perturbé, on pense à Parmassa, à ce qu'on gagne, la voiture, la famille, le ci, le ça, etc. Or c'est important, c'est ça qui va orienter la journée. Et en réalité, ça rejoint ce qu'on avait dit avant, ce qui oriente la première pensée du matin, qui elle va orienter la suite de la journée, c'est la manière dont tu t'es endormi. Donc si tu t'endors avec des paroles de Torah, quelque chose qui va, un souci de Torah, un souci d'étude, ou un souci de spiritualité, ou un souci de bienveillance envers ton prochain, tu te lèveras avec ça. Et ça orientera ta journée. Mais t'avou lefanecha korat nafshenu, et qu'elle vienne devant toi, qu'elle apparaisse devant toi, korat nafshenu, la tranquillité de notre âme, les tova pour le bien, et on te demande de tenir compte de la tranquillité de nos âmes. Donc on voit, ça c'est une prière qui est composée, c'est lui qui l'a composée, Rabbi Lazar. Et la Gemara, donc c'est ça qu'il disait, et la Gemara dit voilà un exemple qui peut t'inspirer, tu peux prendre une partie, deux parties, trois parties, et où tu peux tout dire ou ne rien dire, mais en tout cas voilà ce pourquoi un homme il doit prier. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. Prier pour avoir un ami, prier pour qu'on ait une belle fin de vie, prier pour avoir... Et en réalité, quand on prie pour ces choses-là, on se met dans un état... Prier pour se lever le matin en pensant à du spirituel. Il faut une prière. Tu vas me dire, mais prier. Parce que, en réalité, comment on peut faire? C'est paradoxal. Comment je peux faire pour me lever le matin avec une idée, une pensée positive? Oui. Alors, la Gemara dit, ça se prie, ça. Le fait de prier ça, ça va orienter ton esprit, et le lendemain, tu te lèveras comme ça. La pensée positive se travaille. Tu ne peux pas dire, oh, oui, j'ai pensée positive. Ça ne suffit pas. D'autant plus qu'on ne parle pas juste de pensée. On parle d'une pensée initiale au petit lever. Oui, Meir.
Mais attends,
oui, attends, il était avant toi.
Au début, là, quand il disait, il souhaitait que notre volonté, quelque chose près, à peu près, influence la volonté de Dieu. Que Dieu, entre guillemets, pense comme
voilà.
Moi, oui. Moi, j'aurais plutôt tourné les choses dans l'autre sens. Que nous, on pense comme la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu, il a prévu pour nous, c'est la même chose que ce que nous, on voudrait pour nous. Que plutôt, nous, entre guillemets, on va faire influencer Dieu.
Ah, très bien, c'est une bonne remarque. Ah, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit « Assez retzoncha kirtzono » C'est une Mishnah directe. La Mishnah elle dit, fais que ta volonté soit comme la sienne pour qu'il fasse sa volonté comme la tienne. Ça veut dire qu'à partir du moment... Et oui, si tu fais que ta vie, elle est de faire la volonté d'Hachem dans les mitzvot, dans ce qu'il t'a demandé de faire, et bien lui aussi en parallèle, il fera que sa volonté, ce qu'il veut, c'est ce que toi tu as envie. Parce qu'il sait que toi tu as envie de bonnes choses. C'est-à-dire... Bien sûr que si tu pries Hachem, je veux... des voitures, de l'argent, de ci, de ça. Ça dépend. D'accord, tu vas en faire quoi? Alors, justement, à partir du moment où tu montres que ta volonté à toi, c'est de faire celle d'Hachem, donc il dit, mais il n'y a pas de raison. Si ta volonté, c'est de faire ma volonté, j'accéderai à tes volontés parce qu'elles iront dans le sens de ma volonté. Ok? Oui, Sam.
Oui, mais je voulais dire la même chose. C'est que ça dépend de toi,
oui.
Tout ça. Si tu veux faire des actions caritatives et tu as dans ta tête... pour faire ça toute la journée, etc., pourquoi prier? Pour que ça dure le plus longtemps possible?
Non, pour que tu aies une aide.
Ah, pour
on
que
a besoin d'aide. On ne peut rien faire sans l'aide d'Hachem. Un homme, il croit qu'il a dans les mains, je veux faire, je ferai. C'est pas vrai. Il y a plein de fois où tu veux faire, tu ne fais pas. Et il faut aider la réussite. Et ça, en réalité, ta question, elle est fondamentale. Parce qu'on a l'impression qu'on mène notre vie tout seul. D'accord? Et qu'on fait le bien, c'est le bien. Quand je veux faire le bien, je fais le bien. Quand je ne veux pas le bien, je ne fais pas le bien. Quand je veux construire, je construis. Ce n'est pas vrai. La vie, elle te montre qu'il y a des parcours de vie qui sont facilités et d'autres qui sont moins facilités. Il y a des projets facilités et des projets moins facilités. Il y a des gens que toute leur vie, ils ont voulu faire quelque chose de bien, ils ne sont pas arrivés. D'accord? Donc, après, il y a des raisons pourquoi. Mais en vérité, donc chaque chose qu'un homme il veut faire, même s'il a les moyens, le désir, l'argent, il a tout pour le faire... Il doit demander l'aide d'Hachem. C'est pas le tampon, c'est l'aide. Il doit demander l'aide d'Hachem. Voilà, c'est ce que les anciens disaient avec l'aide de Dieu. Parce qu'on ne fait rien sans l'aide d'Hachem. Mais en vérité, c'est des phrases. D'accord? C'est l'application pratique de Ani Hachem Elokechem Emet. C'est moi qui fais, c'est moi qui commande, c'est moi qui vous aidera. Oui? Quelqu'un veut lever la main? C'est bon. On avance. Deuxième paragraphe. On fait Rabbi Yochanan. Allez, vous êtes bon?
Oui.
Donc là, on a vu Rabbi Lazare. C'est marrant parce que la Gemara, elle va en donner 5 ou 6. Ça veut dire que c'est important pour la Gemara de donner des exemples de prières spontanées des rabbins. Voilà, à quoi les rabbins pensent quand ils font des prières spontanées, des prières autonomes. Rabbi Yochanan, Abatar de Tseyem Souté, Rabbi Yochanan, après qu'il finissait la prière, Amarach, il disait ceci, « Iratzon mifanecha Hashem Elokeinu, qu'elle soit ta volonté Hashem, shetatzit beboshtenu, tatzit, que tu regardes, que tu contemples, boshtenu, nos difficultés, notre honte, dans le sens, dans notre mauvais état, vetabit beraatenu, que tu regardes nos malheurs, vetitlabesh berahamecha, et que tu t'habilles de miséricorde. » L'expression s'habiller, c'est une expression qui est marquée dans le Zohar, que Hachem, il a une essence, d'accord, qui est immatérielle. Et les midot sont comme des habits qu'Hachem met ou enlève. C'est des levushim, d'accord. Pourquoi ce sont des habits? Parce qu'un habit, c'est ce qui vous cache, d'accord. C'est ce qui vous... L'habit, c'est ce qui vous... qui vous matérialise, qui montre qui vous êtes, que vous êtes en jog ou quand vous êtes en costume, ben vous n'êtes pas le même. Mais à l'inverse, l'habit, il vous masque. D'accord ? Bien, c'est la même chose. Hachem, quand on dit Hachem, les levushim, les habits, ce sont les midot. Ça veut dire qu'à la fois, ça nous permet de comprendre Hachem, mais ça masque son essence. Et donc on dit, Vetit la besh berachamecha, il dit, toi Hachem, habille-toi de miséricorde, Vetit kase be'ozecha, et que tu te recouvres par ta puissance, c'est-à-dire que tu montres ta puissance dans le monde, c'est ce qu'on a envie, Vetit atev be'chassidutecha, et que tu t'entoures de chassidut, chassidut c'est la bonté, le chesed, Vetit azer be'chaninotecha, et que tu te saignes, dans le sens de cindre, b'chaninotecha, de miséricorde, mais ta vole panera mida tufra, et qu'elle vienne devant toi, ton attribut de bonté, et de modestie. Pourquoi de modestie? Parce que quand Hachem il est bon dans le monde, c'est-à-dire qu'il va s'occuper même d'un homme qui est tellement petit, qui est tellement loin, et tellement non méritant, et quand même, il lui fera ce qu'il a besoin. Rabbi Zira, l'agma de Rabbi Zira, batar de Msaïm Souté, c'est un troisième rav, une fois qu'il finissait la prière à Marachi. Ira se mipanecha Hashem Elokeinu, je te prie Hachem de faire en sorte chez l'onecheta, qu'on ne faute pas. Aide-moi à ne pas fauter. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est ce qu'on dit souvent dans les prières de Rosh Hashanah et Kippour. D'accord? Et souvent les gens ils demandent, attends, quand on dit inscris-nous dans le livre de ça, inscris-nous dans le livre de ça, inscris-nous, je t'inscris si tu mérites. Ça veut dire quoi? Inscris-moi dans le livre des tzadikim. Non, la demande. Elle exprime une volonté. Ici aussi, quelle soit ta volonté de faire en sorte que je ne faute pas. Aide-moi à ne pas fauter. Alors comment Hachem il va t'aider à ne pas fauter? C'est toi qui veux. Non. Oui. Hachem, il peut te faire faire des bonnes rencontres, éviter les mauvaises rencontres, te d'aller la route. D'accord? Parce qu'il y a des fois où on est faible et on est ci et ça. Alors Hachem, il va faire que tu ouvres pas la mauvaise page sur Internet. Comme ça, t'es tranquille. Hachem aussi, il est responsable de ça. Vélonévoche, qu'on n'ait pas honte de nos actions. Véloni kalem, mais avotez-nous. Et qu'on ne soit pas humilié par rapport à nos pères. Que voilà, moi, qu'est-ce que je suis devenu alors que mes parents, voilà ce qu'ils étaient. Rabbi Chia, pas tardé matzlé. Rabbi Chia, enfin, après qu'il ait fini de prier à Marachi, iratson, s'il te plaît, Hachem. Donc on voit, chacun, en réalité, il y a un travail. Qui est encore un autre travail, c'est d'arriver à faire coïncider ce qu'on sait de ces raves avec leur prière. D'accord? Parce qu'en vérité, leur vie, elle doit nous expliquer quelle a été leur prière. D'accord? Chacun d'entre nous, si on fait un tour de table, alors, bien sûr, il y a des choses qui sont personnelles, mais il a la prière qui correspond à sa vie par rapport à ses désirs, ce qu'il a envie. Par exemple, Rabbi Chia, bâtard des matelés, après qu'il ait fini de prier, Amarachi disait ceci: Iratson, mipanecha Hashem Elokeinu, quelle soit ta volonté Hashem, Chete Torah Traumenutenu. Que ta Torah soit notre travail, dans le sens notre objectif. Voilà. Fais en sorte qu'étudier la Torah, s'intéresser à la Torah, s'intéresser au message divin, ça soit ça qui nous préoccupe avant tout le reste. Et que le reste soit un moyen, le travail, la famille, ça soit un moyen, un cadre pour pouvoir étudier la Torah. Vers Alid Veil Benu, donc un. Que la Torah soit mon objectif. Deux, Ali Dveli Benou, que mon cœur ne soit pas pleurant, fait que mon cœur soit toujours gai, et ça on peut demander de l'aide à Hachem, pour avoir du bon moral. Ve'al Yerchecho et Nenou, et que nos yeux ne s'obscurcissent pas devant ce qu'on voit. Avoir les yeux obscurs, ça veut dire demander à Hachem qu'on voit toujours des belles choses. Donc ça, c'est une jolie tefila, surtout maintenant, d'accord, qu'on doit prier Hachem de faire en sorte que nos yeux ne s'obscurcissent pas par les malheurs qu'on voit, d'accord, et que notre cœur il ne s'attriste pas, et que la Torah soit notre objectif de vie. Voilà, ça c'est les trois phrases que disait Rabbi Chia. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est, on en verra d'autres la prochaine, et vous pouvez essayer d'imaginer les vôtres.